Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui Maseret Sukkot Dav Vav à la quatrième ligne. On était en plein milieu d'un sujet hier. Une braïta nous avait enseigné que Shiurin, Mechitzin, Chatzitzin, Shiurin, les mesures, Mechitzin, des cloisons, Chatzitzin, tout ce qui va nous empêcher de rentrer dans le mikvé, toutes ces choses-là avaient été enseignées à la Chalam Moshe Messina. Et la Gemara avait amené une braïta qui disait le contraire, puisqu'elle ramenait que les Shiurin étaient marqués en sous-entendu dans le Pasuk. Quel Pasuk? Eretz Chita ou Seora, ce qu'on avait vu hier. C'est que la mesure de Chita, c'était pour nous enseigner le laps de temps qu'il faut pour être impur quand on rentre dans une maison qui est impure, le laps de temps qu'il faut qu'il s'écoule pour que les habits portés par la personne soient impurs. La personne elle-même est impure immédiatement. Ça, c'était ce qu'on apprenait de Chita. Maintenant, on va continuer à lire la Braïta. Qu'est-ce qu'on apprend de Seora, l'orge? Alors, la Gemara nous dit, quatrième ligne, Seora d'Etnan, Etzem ka Seora metame bemaga vasa veno metame beoel. Un os d'un mort rend impur. Mais attention, s'il a une petite taille, comme la taille d'un grain d'orge, alors c'est vrai qu'il va rendre impur Bemaga au contact Bemassa quand on le porte, même si on ne le touche pas, mais il n'aura pas la capacité de rendre impur tout ce qui se trouve dans la salle. Donc la mesure de l'orge vient nous apprendre une halakha au sujet de l'impureté propagée par un défunt. Geffen ke de revi'it yayin nazir. Geffen, le terme Geffen vient nous apprendre revi'it yayin nazir. Un nazir n'a pas le droit de consommer ni du vin, ni des raisins secs, ni autres. Quelle est la quantité qui lui est interdite? Revi'it, revi'it, c'est une mesure, c'est un volume. Comment est-ce qu'on va mesurer le volume d'un solide? D'un liquide, c'est plus facile, d'un solide, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va prendre ce solide, on va le rentrer dans un liquide, tout le liquide qui va déborder, on va le mesurer, c'est comme ça qu'on aura le volume. Nous dit la Gemara, Geffen vient nous apprendre que le volume dans lequel on va mettre, le liquide dans lequel on va mettre les solides et voir qu'est-ce qui va sortir, ça doit être du vin, puisque ce liquide, le vin, est plus épais, et donc il va plus difficilement dépasser et déborder le verre, donc on doit prendre du vin. Te'ena kegrogret le tzad shabbat. Une figue, c'est pour nous donner la mesure de ce qui doit être, de la taille de ce qui est interdit de Minatora de porter pendant Shabbat. Rimon, la figue, pour detenan kol kleba levatim shiurin kerimonim. Un ustensile, tant qu'il est utilisable, garde son statut d'ustensile. S'il a été impur, par exemple, et que l'ustensile s'est abîmé, il perd son statut, il perd son impureté. Quand est-ce qu'il perd son impureté? Dès qu'il perd son statut. Quand est-ce qu'il perd son statut? Quand il n'est plus utilisable. Sauf qu'il y a une différence entre un ustensile domestique et un ustensile qui est vendu en magasin. Une marmite, si jamais il manque le manche de la marmite, la marmite, elle ne sera pas vendable, mais à la maison, elle sera utilisable. Pareil, s'il y a un trou, ben, c'est sûr que ça ne va pas être vendu. Mais à la maison, on va l'utiliser. Alors, on ne peut pas l'utiliser pour une cuisson, on va l'utiliser, par exemple, en tant que récipient. On va mettre des fruits à l'intérieur. À partir du moment où les fruits ne passent pas à travers le trou. Et donc, la mesure qui est marquée, c'est Rimon, une grenade. C'est-à-dire que s'il y a un gros trou, aussi grand qu'une grenade, là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec. Mais tant que le trou est plus petit, on lui trouvera une utilisation, il garde son statut, il garde son impureté. Eretz zet shemen udvash, c'est la suite du pasuk. Donc eretz, donc zet shemen, c'est les olives. Eretz shekol shiurim kazeitim, ce pasuk va nous apprendre que tous les shiurim, toutes les mesures sont comme une olive kazeit. Kol shiurah c'est le kadatar. Quoi, tu me dis que tout est comme une olive? C'est pas vrai. Haikane, on vient de donner une liste de choses qui ne sont pas dépendantes de la taille de l'olive. Et la ema sherov shiurah kazeitim, c'est vrai qu'il y a une liste de choses exceptionnelles, mais il y a en général la mesure, la quantité, c'est kazait. Dvash, le miel, en vérité on parle de date. Kekote vetagasta, bien makipurim. Comme on a vu ensemble dans Maseret Yoma, que la quantité à consommer pendant Kippour, la quantité interdite à Yom Kippour, c'est la quantité d'une grande date. Donc nous dit la Gemara, Madora Italino. Donc tu vois bien que les shiurin, les mesures, les tailles, sont minatora. Comment est-ce que tu me dis que c'est la Chalam Moshe Messinaï? Tisbera nous dit la Gemara. C'est logique. Toi, t'es sérieux dans ce que tu dis? Shiurin miktive. Ils sont marqués là. Eretz Rita ou Seora, on te fait le descriptif des fruits d'Israël. Est-ce que tu peux comprendre Behemet à travers ça, les Shiurim? Et là, il chétaninu vikras marta be'almaou. En vérité, ça appuie ce que j'ai dit. C'est une halakha Moshe Messinaï. Sauf que une halakha Moshe Messinaï, elle a un porte-manteau, elle a un appui dans la Torah, Asmarta. Et c'est ce qu'on a ici. On a halakha Moshe Messinaï en termes de Shiurim. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont rappelés, où est-ce qu'ils sont mis en petit clin d'œil dans ce pasouk-là. La Gemara continue à poser une question sur la Braïta. Chatzitzin de Braïta, tu me dis que la Chatzitza c'est mina Torah, ve'aktiv ve'rachatz b'maim, sheloi davar chotzetz benole b'maim. C'est marqué clairement dans la Torah qu'il faut se tremper ve'rachatz b'maim, il faut que tu sois dans l'eau. Si jamais une partie du corps n'est pas au contact de l'eau, cette partie n'est pas considérée comme dans l'eau. Donc la Khatitsa est marquée clairement dans le passouk, qu'on n'a pas besoin d'une halakha. Moshe Missinaï, pour me l'enseigner, la Gemara donne une première réponse. Kata il cheta, kede Rabba Bar Bar Chana. La halakha est venue nous enseigner ce que Rabba Bar Bar Chana nous a enseigné. D'Ama Rabba Bar Bar Chana, nima achat kshura chotetzet. Un cheveu, quand il est attaché sur lui-même, le nœud ne va pas permettre à l'eau de passer, c'est pour ça qu'il y a Khatitsa. Shalosh elan chotetzot. Mais quand il y a plusieurs cheveux, ils sont attachés entre eux, il n'y a pas de Khatitsa puisqu'ils sont forcément moins forts, ils sont pas, le nœud est beaucoup moins serré. Shtaim en yodia. Deux cheveux ensemble, s'ils sont attachés, je ne sais pas si on peut considérer qu'ils sont attachés suffisamment fort pour empêcher l'eau de passer ou pas, donc je ne sais pas. Nous dit la Gemara que la halakha est venue nous enseigner que non seulement le corps, sur le corps il y a une halakha de khatitsa, mais même sur les cheveux. Nous dit la Gemara, c'est pas vrai, c'est Arunamé de Raïtaninu. La halakha de khatitsa dans les cheveux, elle est minatora dirtiv. Verachat zel besaro bamaim. C'est quoi le terme et? Le terme « et » hatafel le besaro, ce qui est adjectif à sa peau, ce qui accompagne sa peau, mais ni aussi aro. Donc dans le pasouk, c'est marqué clairement qu'il ne doit pas y avoir khatitsa non seulement entre son corps et l'eau, mais même entre les cheveux et l'eau. Et donc, nous dit la Gemara, on n'a pas besoin d'une halakha la Moshe Missinaï pour nous apprendre qu'il y a khatitsa dans les cheveux, sachant que c'est une halakha, que c'est un pasouk clair. La Gemara répond « Kehata il cheta alek de Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak ». Ce qu'on va voir dans Rabbi Yitzhak, c'est dans quel format la Khatitsa est mise dans la Torah, dans les cheveux. Ce format-là, il est à la Khalam Moshe Messina, il n'est pas marqué dans la Torah. Dva Torah, mina Torah, on robot makpid alav. Quand est-ce qu'on considère qu'il y a Khatitsa dans les cheveux? Quand la majeure partie de ses cheveux sont sales et ça le dérange. Robot, c'est la majeure partie, makpid alav, ça le dérange. Mais chez nos makpid alav, et nos chotet, si jamais ça ne le dérange pas, un travailleur qui, je sais pas, il fait de la peinture, il a tout le temps les cheveux sales, il vit comme ça, ça ne le dérange pas. Donc, Eno Makpidalav, pourquoi Eno Chotzet, puisque ça fait partie de son corps. Donc, pour que ça soit Chotzet, pour que ça soit problématique au sujet de la Tfila, on a besoin de deux conditions, majeure partie, et non pas la minorité, et en plus Khatitsa. Alors, si il nous manque l'un des deux détails, ou alors c'est seulement quelques cheveux qui sont sales, ou alors c'est tous ses cheveux, mais ça ne le dérange pas, ça ne devrait pas avoir de Khatitsa. Cette Nekudala, ce point-là, c'est ça que la Khalem Moshe Messenaïm nous a enseigné. C'est-à-dire, on sait qu'il y a Khatitsa, mais dans quelle forme? Dans quelle quantité? C'est la halakha de Moshe Messenaï qui nous dit. Maintenant, la Gemara continue, nous dit Gazrou al Roubo, Sheino Makpid, Mishum Roubo Makpid. Maintenant, Midé Rabanan, on a dit qu'il y avait Khatitsa al Roubo quand il y a une majorité, même si ça ne le dérange pas, parce qu'on avait peur que si on avait permis, on aurait dit même dans Rov à Makpid, quand il y a une majorité et que ça le dérange, les gens auraient dit c'est pas grave. V al Miuto à Makpid, on a aussi interdit quand il y a une minorité mais qui le dérange. On définit que c'est Khatitsa de la même manière que la majorité qui est Makpid, c'est Khatitsa. Donc en vérité, on a deux facteurs, la quantité, Rov ou Miout, et est-ce que ça le dérange? Et on a interdit, Mina Torah c'est interdit quand on a les deux facteurs, Midé Rabbanan c'est interdit quand on a l'un des deux. Mais la Gemara avait l'exemple d'Amé al Miouto chez nos Makpid. Pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas aussi quand on a ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire une minorité et ça ne le dérange pas? Michou Miouto à Makpid, puisque ça ressemble à une minorité qui le dérange, ou alors ça ressemble à une majorité qui ne le dérange pas. Donc il y a quand même une certaine ressemblance. À partir du moment où tu élargis, tu dis à partir du moment où il y a un des facteurs de ce qui est interdit, tu interdis. Et bien, en fin de compte, mute, c'est aussi un facteur interdit. Eno Makpid, c'est aussi un facteur qui est interdit. Donc quand j'ai les deux qui se rencontrent, minorité qui ne le dérange pas aussi, ça devrait être interdit. La Gemara répond, comme j'imagine que vous voulez répondre, Higufa Xera, Vanan, comme le Nixor Xera, l'Exera. C'est vrai qu'on a interdit quand il n'y a qu'un seul facteur, mais c'est interdit Midera Banane. D'interdire quand il n'y a pas les deux facteurs Minatora, c'est interdire face au Dera Banane. Et on ne fait pas de décret pour protéger un décret, c'est-à-dire Xera l'Exera. Quand un interdit est Midera Banane, on ne peut pas dire voilà, on va t'interdire ça de peur que tu transgresses l'interdit Midera Banane. On peut interdire Midera Banane de peur que tu transgresses le Deoraita, mais non pas de peur que tu transgresses le Dera Banane. Donc la Gemara nous dit que la Gemara a répondu pourquoi est-ce qu'on a besoin du pasouk pour Khatitsa, pour la mesure de Khatitsa. Mechitsin, les cloisons, les halachot de cloison, nous dit la Gemara pour ce qu'on a dit, Hadé Amaran, c'est-à-dire, d'après Rav Yehuda, on n'a pas de source à la taille minimale d'une souka de dit Fahim. Voilà, la Moshe Messinaï, c'est ce qu'elle a venu nous enseigner. Anichale Rav Yehuda. Et là, les Rabbi Meir, Maïka le Memar. On a vu avant-hier, hier, que d'après Rabbi Meir, d'où est-ce que je sais que la Mechitsa doit faire dit Fahim, puisque Aaron fait dit Fahim de hauteur et que les ailes des Kouvim dépassent d'un petit peu de, au-dessus de leur tête et qu'il y a 10 tfachim d'espace entre les ailes et les kouvim, on sait que c'est un espace conséquent, que c'est une mechitza. Donc on n'a pas besoin de la halakha de Moshe Missinaï pour m'enseigner que mechitzin, la taille de la mechitza, on l'a marqué clairement dans la Torah. La halakha de mechitzin, c'est vrai, elle ne nous enseigne pas la taille minimale d'une mechitza, mais elle nous apprend autre chose. Goud, c'est tirer. Comme on avait déjà vu ensemble, par exemple, goudasik, c'est-à-dire le tirer vers le haut. Considérer que si j'ai une mechitza en bas, c'est comme si je l'avais en, beau, en haut. La voud, quand on a deux parties de cloison qui sont séparées par un espace vide, par de l'air, s'il y a moins de trois de farim, on considère que cet endroit est fermé. Quelque chose qui est jeté du Reshout Hayachid vers un Reshout Hayachid en passant par le Reshout Harabim, s'il passe à trois de farim du sol, on considère qu'il a fait un arrêt dans le sol. Moins de trois de farim, on colle les deux choses. C'est ce qu'on appelle la voud. Dernière chose, de Fenakuma, quand on a un srach qui est éloigné de ses murs et qu'entre le srach et le mur, il y a du srach qui n'est pas kasher, ça devrait être pas soul puisqu'on a un plafond qui n'est pas kasher. On a une définition, non, en fait, ce n'est pas le plafond, c'est le mur qui est continu, d'Ofenakuma. C'est pour ces halakhot-là qu'on a halakha Moshe Missinaï, évidemment, on n'aurait jamais imaginé les dire nous-mêmes. Donc on a halakha Moshe Missinaï pour ces trois choses. Donc on a répondu à ce que la Braïta nous avait dit, voici trois choses que la Torah nous a, que Moshe nous a enseignées, c'est halakha Moshe Missinaï, shiurim, mechitzin et chatzitzin. On a donné les quatre figures dans lesquelles on avait besoin d'halakha Moshe Missinaï. Veshe'en la shalosh fanot. Une souka qui n'a pas trois murs et psula. Tanoura banan. La Gemara nous ramène une machloquette à ce sujet. Shtaim, qui est le chatan, il faut deux murs avec la taille minimale, 7 fachim. Shlishit afilu tefach. La troisième, on se suffit d'un tefach, la troisième cloison. Rabbi Shimon Omer, shalosh, qui est le chatan, ovit afilu tefach. D'après Rabbi Shimon, il faut 3, qui est la taille normale. Et la quatrième, parce que d'après Rabbi Shimon, il en faut 4. Il faut cette quatrième, on peut se suffire d'un tefach. Donc on a une machloquette sur le nombre minimal de mechitzot, 2 ou 3. On est tous d'accord que celle qui en plus peut faire un tefar. Bemaïka miflege. Quelle est la marloquette? Rabbanan savri yesh em la masoret. Rabbi Shimon Omer yesh em la mikra. Masoret, c'est ce qui a été transmis. Ce qui a été transmis, tout a été transmis de Moshe. Mais il y a des choses qui ont été transmises physiquement, des écrits. Alors que tout ce qu'on a appris à l'oral, ça a été transmis. Mais ce n'est pas quelque chose qui est passé de main en main. Yesh em la masoret, ça vient dire qu'on préfère ce qui est écrit. Yesh em la mikra, on préfère la lecture. C'est-à-dire, quand on a un pasouk qui est écrit d'une certaine manière, qui se lit d'une autre manière, et qu'on a donc une différence entre l'écrit et la lecture, est-ce qu'on va préférer ce qui est ce qu'on entend ou ce qu'on lit? Ce qu'on entend ou ce qui est écrit plutôt? Est-ce qu'on va donner plus de poids à la façon dont c'est écrit ou la façon dont ça se lit? Yesh em la masoret elle est mieux que ce qui est ce qui s'entend. Yesh em la mikra, hein, on préfère ce qui s'entend à ce qui est écrit. Et donc, dans les psukim de Sukkot, il est marqué 3 fois le terme Sukkot. Et Sukkot, ça s'entend pluriel, mais ça peut s'écrire Sukkot sans vav, et ça peut s'écrire donc au singulier. Rabbanan, c'est vrai, Yesh em la Masoret. Rabbanan pense que Yesh em la Masoret, c'est-à-dire ce qui a été écrit. Sachant que c'est écrit Sukkot 2 fois sans vav, et la troisième fois avec vav, au total, si je dis Yesh em la Masoret, je préfère ce qui est écrit, c'est comme s'il y avait marqué Basukat, Basukat, Basukot. Sukat, Sukat singulier, 1 plus 1 égale 2. Sukot pluriel, 4. Donc c'est comme si j'avais marqué dans la Torah 4. Et alors Arekan Arba, donc on en a 4. Dalcha dégouffé. Un pasouk, on ne peut pas l'utiliser pour nous apprendre quoi que ce soit. Il faut bien que le terme Sukot soit marqué dans la Torah. Donc on ne peut pas utiliser le pasouk qui est marqué Basukot en premier. Donc on en reste avec 3. Pashliut Lata. Donc il nous en reste 3. Shtaim Kil Khatan, Vatay Khatan, Gratal Shlishit. Donc, puisqu'on a 3 termes Sukkot, 3 cloisons, mais on a une halakha Moshe Missinaï, Gra'ata et la Raptissi, la Shlishit, la troisième, c'est pour ça que Chachamim pense qu'on est passé de 4 à 3, de 3 à 2, donc on a 2 Mechitzot plus un Tefar. Rabbi Shimon Savar, Yesh Em Lamik, Rabbi Shimon dit non, c'est comme ça se lit. Comment ça se lit? 2, 2, 2, Sukkot, Sukkot, Sukkot au pluriel. C'est vrai que ça s'écrit au singulier, mais je préfère, comme ça s'entend pluriel. Donc j'en ai 6. Donc, Arekan, Shesh, Dal Chad Kra Legoufé. J'ai besoin du premier pasouk, il faut bien que ça soit marqué. Donc, en vérité, j'en ai 4. Pashliu Arba, Shalosh Kil Chetan. 3 normal, comme il le faut. Atayel Cheta, Gratal Arevit, Vukma Atefar. Et la halakha qui nous a dit qu'on pouvait remplacer une mechitza par un tefar, elle vient parler de la quatrième. Donc, la marloquette, elle est est-ce que je donne plus de poids à la lecture, et donc c'est pluriel, et donc est égal à 6, qui passe à 4 et qui passe à 3? Ou est-ce que je donne plus de poids à l'écriture qui commence à 4, qui passe à 3 et qui au final me dit deux comme il le faut et une tefar. Première explication. Deuxième explication. Iba et Tema de Kulalma Yeshem la Mikra. D'après tout le monde, Yeshem la Mikra par rapport, on préfère plus la lecture que comme ça s'écrit. La lecture, elle est plurielle, donc le point de départ, il est 6. Mais, Acha Beakam Flegamar, ça va, Sracha Baikra. Il y en a un qui pense qu'un pasouk doit être utilisé pour le plafond. Et donc, en fait, le point de départ, il est 4. Et quand le point de départ, il est 4, donc on va avoir, quand on va. Quand on va faire le calcul, en fin de compte, on va se retrouver avec une mechitza de un on va se retrouver avec deux mechitzot et une mechitza de un tefar. Ma savas racha baekra. Donc le pasouk a besoin d'un pasouk, donc on n'a que. Okay. Donc on va se retrouver avec deux murs et un tefar. Ma savas sracha lo baekra. Le srach n'a pas besoin de pasouk, donc mon point de départ il est 6. Et donc je vais arriver à 4. Comment? D'après tout le monde, on n'utilise pas un pasouk de toutes les façons. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas un pasouk? Puisque comme on l'a dit, un pasouk, on est obligé d'avoir. Donc si mon point de départ, il est 6, d'après tout le monde, mon point de départ, il est 6. S'il y a un pasouk que j'enlève, donc mon point de départ, il est 4. Maintenant que la halakha vient enlever, j'avais 6, 1 pour Sukkot elle-même, et il m'en reste 4, donc la halakha de Moshe Messina me fait passer à 3. Mais si j'enlève deux psukim, pourquoi j'enlèverais deux psukim? Un pour le srach, un parce que j'en ai besoin, parce qu'il faut que ça soit officiel. Donc forcément, il m'en reste que deux. Donc là, la halakha Moshe Mishinaï est venu me rajouter le troisième mur. Oui, bah, etema de kulalma yeshem la masoret. Tout le monde est d'accord que yeshem la masoret, c'est-à-dire comme ça a été écrit. Si ça a été écrit comme ça a été écrit, basukat, basukat, basukot, mon point de départ, il est 4. Vecha be'akam flige. La marchloquette, elle est comme ça. Ma savoir qu'il y a tel chétal légaréa. Ma savoir qu'il y a tel chétal aussi. C'est-à-dire que le point de départ, il est exactement pareil. Mais est-ce que le pasouk, le halakha de Moshe Mishinaï, elle vient te dire, rajoute encore une, ou elle vient te dire ce que je t'ai déjà obligé dans le pasouk? Dans ce cadre-là, une des méchitzot, tu peux enlever un tefar. Donc, puisque tout le monde pense que Yesh aime la massorette comme ça a été écrit, mon point de départ, il est 4. Il descend à 3 parce que j'ai besoin d'un pasouk pour Be'etzem, j'en ai besoin. Donc j'en ai 3. Celui Yann Chachamim te dit, oui, de 3 on passe à 2. Et Rabbi Shimon te dit, de 3 on passe à 4. Tout le monde est d'accord que le pasouk, forcément, il vient amoindrir les obligations. Il va t'enlever une méchitza. Ve'yesh em la masoret, et tout le monde est d'accord que notre point de départ, c'est 4. Ve'achab et dorshin trilot, est-ce que ce qu'on a pris comme acquis tout au long de la sougé, à savoir, est-ce qu'on a besoin d'un pasouk, au moins un, qui nous dit le terme de soukot, est-ce que c'est vrai ou pas? Si on te dit en dorshin trilot, donc si ton point de départ il est 4, tu enlèves 1, tu restes à 3, donc, et là, la halakha Moshe Mishinaï vient te dire la troisième, tu peux la rapetisser, il n'y a pas de marloquette. La marloquette, elle, est-ce que je passe de 4 à 3 parce que en dorshin trilot, parce que je ne peux pas utiliser le premier pasouk, ou alors Rabbi Shimon te dit dorshin trilot, on peut utiliser le pasouk, donc on reste avec 4 de départ. La halakha vient me dire la quatrième, tu peux la rapetisser, donc c'est pour ça qu'on aurait cette marloquette-là. Rav Matna Amar Tamed Rabbi Shimon Me'acha Vesukat Yel Etzelima Mechorev Vul Marcel Mistor Mizrim Matar. Il marquait dans le Navi qu'une souka est censée pour le protéger du soleil, de la pluie, etc. Si elle n'a pas au moins 3 cloisons, elle ne protège de rien du tout. Remarquez, les abris de bus ont 3 cloisons. Ils sont là pour ça, pour protéger. Donc au minimum 3. On n'a pas mis la troisième, un tefar. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu plus petite, mais on a besoin d'un minimum de protection. La Gemara nous dit donc qu'on doit mettre un tefar en plus. Oto tefar, echan ma'amido. Comment est-ce que je mets ce troisième tefar? C'est-à-dire, j'ai deux méchitzot, sept farim, et encore une méchitza de un tefar. Où est-ce que je le mets? Comment est-ce que je le mets? Amarav ma'amido kenegadayotse. A, B et C, A, B, A et B font sept farim, C, c'est celui qui fait un tefar. C doit être parallèle à A. A, B, C, C doit être parallèle à A, d'après Rav. Amoule Rav Kana, Vera Vassile Rav, Veya amidenu kenegad rojtor. Pourquoi est-ce que tu mets C parallèle à A? Face à l'angle A et B, face à l'angle qu'il y a entre A et B, face à cet angle en diagonale, mets là-bas le tefar. Pourquoi? Parce que l'idée de ce tefar qui est en plus, c'est quoi? L'idée, c'est comme on l'a déjà dit, en termes de méchitza, on a deux intérêts. Premièrement, ça crée une certaine intimité. Deuxièmement, ça définit l'endroit. Alors c'est vrai que A et B et C comme Rav, A, B et C parallèle à A, ça définit un petit peu, mais ça définit que par rapport à un mur. C'est-à-dire que on va considérer que C est la continuité de B, donc on va considérer comme si c'était un mur. Moi, je vais avec un tefar créer C et D. Ou comment? je vais le mettre face à l'angle AB. Donc, je vais créer donc, dans l'angle virtuel de CD, j'ai un morceau de bois. Et ce morceau de bois m'aura créé 4 mechitzot. Et donc, la Gemara demande pourquoi est-ce que Rav nous dit on le met parallèle à A, parallèle à A, on devrait le mettre face à l'angle AB. Chatik Rav. Rav n'a pas répondu. Ou alors, parce qu'il pensait qu'ils avaient raison, ou alors parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas besoin de répondre. Ils sont tous d'accord avec Rav. Rabbi Siman v'itemar Rabbi Yoshua ben Levi Amar, lui vient avec une autre proposition. Oselo tefar sochek. Un tefar, c'est un point. Sochek, c'est souriant. C'est que les doigts sont un peu séparés. Donc il y a un peu plus qu'un tefar. Uma amido beparon shloshat varim samuch ladofen. Il va le mettre à côté de B, parallèle à A. A, un peu moins de 3 tefarim. Et donc en vérité, grâce à cette méritza de un tefar et quelques, qui se trouve à moins de 3 tefarim, on a une halakha qu'on vient de voir, la voud, moins de 3 tefarim de séparés, on considère que c'est rempli. Donc, puisqu'on considère que c'est rempli, on considère qu'on a une méritza de 4 et quelques tefarim, sachant que la taille d'une méritza, c'est 7 tefarim, grâce à un morceau de bois de un tefar et quelques, j'ai créé une méritza de plus de 4 tefarim, de la majeure partie de la méritza, et c'est suffisant, la majorité va me créer cette fameuse méritza. Encore une fois, prenez l'idée que cette méritza virtuelle crée une frontière. Et donc, grâce au fait qu'on a éloigné de moins de 3 tefachim, c'est considéré comme la voûte, et donc on a une majorité de méritza. On va résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. La mesure qu'on veut apprendre de l'orge, c'est la taille d'un os qui rendrait la taille d'un os d'un mort qui rend impur au contact et quand on le porte, mais non pas en Oel. Et Chita sera Geffen, comment mesurer le volume d'un solide à travers le liquide du vin. Geffen, Rimon, la grenade pour évaluer la taille du trou qu'on aurait dans un ustensile pour lui faire perdre son statut. Téna, la taille, la figue, qu'on a, c'est la taille d'un ustensile qui est interdit de porter pendant Shabbat. Est-ce qu'il manque quelque chose? Ah oui, la date. La date, c'est par rapport à la quantité de consommation interdite à Yom Kippour. Ça, toutes ces mesures sont sous-entendues dans le pasouk, Kamouvan, l'olive, Kazaït, mais en vérité, toutes ces mesures sont à la Khalam Moshe Messinaï. Khatitin, autant qu'il y a une khatitza sur le corps, autant il y en a dans les cheveux. La mesure de khatitza dans les cheveux, à savoir Minatora, Rubo ou Makpid, la majeure partie des cheveux, et le fait que ça le dérange, elle est Minatora, mais elle n'est pas marquée dans la Torah, c'est à la Khalam Moshe Messinaï. Mechitin, les cloisons. C'est à la Khalam Moshe Messinaï, d'après Rav Yehuda, pour la taille minimale d'une cloison, déjà. Et d'après Rabbi Meir, pour nous apprendre Goudasik, une méritza qui est en bas continue vers le haut. La voûte, moins de 3 tefachim, on peut les relier ou on peut les remplir. Et Dofen Akuma, un srach qui est pasoul, on peut le considérer non pas comme un srach, mais comme la suite du mur, et donc rendre grâce à ça kasher la soukha. Machloket entre Chachamim et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on se suffit de 2 murs et le troisième avec un tefar, ou est-ce qu'on se suffit de 3 murs et le quatrième avec un tefar? On a donné à cela plusieurs explications. Ce qu'il faut se rappeler, les moussagim, c'est aime la massoret, aime la mikra. Aime la massoret, on préfère donner plus de poids à ce qui est écrit. Aime la mikra, on préfère donner plus de poids à ce qui s'entend. On a aussi une marloquette de Dorshin Trilot. Est-ce qu'on utilise le premier pasouk, le terme du premier pasouk, ou est-ce qu'on n'utilise pas le premier pasouk? Et est-ce que la Khalam Moshe Messinaï est venu pour ajouter ou pour enlever. Donc avec ça, on joue et on arrive à plusieurs explications. Autre explication dans les paroles de Rabbi Shimon, une soukha est censée nous protéger du soleil et de la pluie. S'il n'y a pas au moins 3 méritzot, ça ne protège pas. Quand on dit qu'on rajoute un tefar, quand on a 2 méritzot de 7 farim et un tefar, marloket, est-ce qu'on le rajoute face à la suite de B parallèle à A, ou alors on le met en diagonale face à l'angle AB, ou alors on le met comme on avait dit au début, c'est-à-dire à la suite de B, mais pas directement collé à B, éloigné de B de moins de 3 tefarim, le tefar lui-même serait un peu plus qu'un tefar, il serait tefar sochek. Grâce à ça, on a créé une cloison, une séparation de plus de 4 tefarim, qui est 4 tefarim, c'est primordial, puisque la longueur minimum, c'est 7, donc j'ai la majorité, et grâce à cette majorité, je peux considérer que j'ai la méritza entière, et donc la soukha et kshira, grâce à ça, le daf est clair, Baruch HaShem. N'oubliez pas de faire Hazara, et à demain, Bezrat HaShem.